Pendant que Michael, David et Marco gèrent leur saison des sucres 2025, c'est Jean-Étienne qui anime des entrevues avec les leaders des plus grandes entreprises manufacturières en acériculture. Cette série d'entrevues du podcast La fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec, Rimouski et Sainte-Agathe. Les invités de cet épisode sont Marika Chabot et Maryse Vernier des équipements d'érablière CDL. Les deux femmes nous parlent des valeurs et de la vision de CDL, ainsi que de la place de la relève dans une industrie qui se préoccupe de plus en plus de l'environnement. De plus, depuis quelques années, c'est toute l'industrie acéricole qui est dans une forte courbe en ce qui concerne l'automatisation des procédés de production de sirop d'érable. Ces changements obligent beaucoup d'adaptation et la venue d'une nouvelle génération de Chabot au sein de l'entreprise familiale semble être une bonne réponse à ce besoin d'innovation, une valeur qui a toujours porté l'entreprise depuis sa fondation. Cet épisode de La fièvre des sucres vous est présenté grâce à la collaboration de Click2Go Elite, qui vous offre une solution pratique et sécuritaire pour toujours avoir vos outils à portée de main en forêt. Ainsi que Québecol et sa gamme unique d'alcool 100% à base d'érable et fait entièrement de vrais ingrédients québécois. Et les entreprises forestières Serge Bureau, qui offrent des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce 10e épisode du podcast « La fièvre des sucres ».
Bienvenue à la souche. Santé, Annika.
Santé.
Bonjour, Maryse. Puis, c'est la première fois que vous venez un peu dans la région ici ou...
Oui.
Pour toi, oui?
Oui.
Ouais. Quand je te disais tantôt qu'on est une région de 3 millions d'entailles, quelqu'un qui travaille en acériculture, ça t'étonnait-tu? Arrives-tu à penser que c'est vrai, même? Ouais.
Ben, c'est fou là, de voir vraiment le potentiel qu'il y a ici sur toutes les montagnes.
Puis qui n'est pas développé.
Oui,
qui n'est pas développé. Mais c'est ça, la petite histoire, c'est toujours la même que je raconte, c'est que les gens ici, traditionnellement, avec les grosses montagnes, ils n'allaient pas tuer un cheval pour monter avec une tonne. Hein. Fait que aujourd'hui, c'est plus des obstacles, au contraire. Puis on est content que des gens comme vous se déplacent. Si vous venez voir notre région, c'est parce que c'est le signe qu'on est en train de bouger dans le bon sens. Peut-être vous présenter un peu, parler de vos rôles. Maryse et Marika, vous avez des emplois différents, présenter des horizons différents, mais complémentaires à mon sens.
Vraiment.
Peut-être, Maryse, tu peux nous dire, qu'est-ce que tu fais, toi, chez CDL? Puis, en quoi ça consiste vraiment le travail que tu fais là-bas?
Ça fait 10 ans, première chose, que je travaille pour l'entreprise. Une dizaine d'années, je suis rentrée comme directrice marketing. Maintenant, je m'occupe de tout ce qui est distribution et services chez CDL, en incluant aussi le marketing. Donc, je touche autant aux opérations plus tactiques qu'au niveau plus stratégique de l'entreprise. Donc, clientèle et tout ça. Oui, je travaille quotidiennement avec Marika au niveau marketing, vu qu'elle est dans le département des ventes.
Donc, ça te donne vraiment une vision très globale de l'ensemble de ce que c'est CDL.
Assurément.
Ça fait toi une personne ressource, j'imagine, pour Marika, même si elle connaît bien cet univers-là, puisque c'est un univers aussi familial pour toi. Ton famille, c'est Chabot. Toi, qu'est-ce que tu fais chez CDL maintenant?
C'est ça. Moi, actuellement, je travaille dans le département des ventes. Fait que je suis assistante aux ventes, mais j'ai un bac en ingénierie. Fait que j'ai un petit peu plus un côté mécanique. Puis c'est sûr que j'ai touché à plein d'aspects chez CDL, parce que depuis que je suis jeune... Mes étés, je les passe dans différents départements.
Journée pédagogique aussi.
À faire différentes tâches. Fait que je grandis dans l'entreprise depuis plusieurs années déjà.
Et tu me parlais tantôt de ta formation en génie. C'est lié à l'environnement. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ça pour qu'on comprenne mieux, peut-être. Bon, oui, le rôle que tu fais en ce moment aux ventes, mais peut-être qu'avec le temps, ton rôle, puis surtout l'environnement prend une place de plus importante dans le domaine de la circulture. En quoi tes études, ça t'amène à avoir peut-être aussi un regard sur l'environnement qui est un peu différent?
C'est ça, moi j'ai étudié en ingénierie des bioressources, qu'on appelle là, bioressources, c'est un nom un petit peu compliqué, mais ce que ça veut dire, c'est vraiment relié à l'environnement. Fait que j'ai eu plusieurs cours différents, le compostage, sur l'irrigation dans les champs, après le plastique, la récupération, etc. Fait que je vais apporter ce côté-là un petit peu plus, une vision différente, je pense, au courant des prochaines années là, pour l'entreprise.
Puis déjà, en arrivant chez CDL, est-ce que ton regard lié à ces études-là, déjà, t'as amené tout de suite à lever le doigt et à pointer des choses, pas que c'est moins environnemental chez CDL qu'ailleurs, mais je veux dire, est-ce que tu es arrivé avec un petit regard critique pour dire « Oups, il y a déjà des choses, moi, que j'aimerais changer » ou ça... vois-tu vraiment que ça t'apporte un regard qui va provoquer du changement?
Bien, je pense que oui, mais plus, mettons, à long terme. Je pense qu'on a des... Il y a des premières étapes, mettons, à faire, comme dans la réduction, par exemple, de l'énergie qu'on utilise, de commencer parce que ça a un plus gros impact, puis par la suite, bien, plus aller dans, par exemple, je sais pas, des matériaux qui sont un peu plus environnementaux, on va dire, là. Fait que je pense que ça va être plus, mettons, le deuxième pas à prendre de la vente.
Qu'est-ce qui est intéressant, si je peux me permettre? Tu sais, les ventes, de par le rôle de Maria, c'est que les ventes chez CDR, c'est un accompagnement client. Fait que son regard environnemental, elle l'apporte aussi dans l'accompagnement des projets clients. C'est ça qui est intéressant, là. Fait que quand elle dit « ça, c'est pas tout de suite », mais elle l'apporte tout de suite dans des projets, des gens qui veulent faire des projets.
Puis qui veulent être un petit peu plus écologiques.
Écologique,
pour certains producteurs, exactement. Producteurs, c'est important.
Oui.
Quelqu'un qui est carboneutre, qui a eu la certification, il va te le dire. Hein?
Exactement. Fait que c'est là parce qu'il y a des, dont on appelle ça des quick wins à l'interne. Là. Puis toute l'expertise à Marca aussi, les ventes sont très, très impliquées dans les besoins clients puis le développement de produits. Fait que dans cet aspect-là de développement de produits, bien, il y a l'aspect environnemental un peu plus.
Parce que en même temps, il y a plusieurs mondes dans votre monde. T'sais, si on prend les produits en stainless, on peut dire oui, il y a un coût écologique à produire le stainless, mais c'est des produits très durables.
Oui.
On est d'accord.
Oui.
La tubulure, oui, ça a une certaine durée de vie. Il y a des enjeux de recyclage, puis de réutilisation, puis de pollution plus importants tout de suite. Tu es d'accord avec moi? Oui. Fait que c'est pas tout du même niveau, les défis, puis les.
Ça
enjeux.
Reste aussi que, en général, les équipements circa, c'est quand même il y a une grosse gamme, là. Fait que,
oui.
Tu sais, c'est pas. Tu ne fais pas changer ça comme ça. Tu sais, ça va être tranquillement, pas vite, de voir son où les besoins.
Puis, il y a des mentalités aussi. Faire progresser les mentalités, c'est
exactement.
Pas si facile.
Exactement.
Puis on est tout d'accord pour dire que depuis 10-15 ans, ça a changé énormément.
Ouais.
C'est à la vitesse lumière en ce moment. Vous êtes d'accord?
Oui,
ça change
vraiment.
Avant d'aller plus loin et de parler de CDL, juste pour vous dire, moi, j'aimerais ça savoir un peu le rapport au sucre aussi, à la sériculture. Parce que s'il y a un domaine où les gens, je trouve, incarnent un peu le milieu, c'est bien la sériculture. C'est bien rare que tu rentres dans une entreprise comme la vôtre puis que personne a d'intérêt. Tu sais, on fabrique du sirop, c'est quelque chose qu'on connaît depuis qu'on est jeune, qu'on est enfant. Alors, Marie, toi, le sirop dans ta vie, c'est arrivé comment?
Commençons plus jeune. Bien, je viens d'un milieu, je viens de l'agriculture. Mon père avait une ferme. Par la suite, j'étais allée aux études et tout ça, et j'allais aussi à la Rabière. Moi, je viens de l'Île-aux-Grues, qui est une petite île dans le milieu du Saint-Laurent. Donc, il y avait le domaine de la séricole, mais sans plus. J'ai fait mes études par la suite et j'ai travaillé dans un tout autre milieu. J'ai connu mon chum, qui eux sont très, ma belle famille, très, très impliquée dans le milieu à séricole et tout ça. De fil en aiguille, j'ai joint l'entreprise CDL. Mais assurément, oui, j'avais le goût de me lancer, mais ça a été vraiment quand j'ai commencé dedans que le coup de foudre s'est passé, dans le sens où est-ce que la passion, là,
c'est contagieux.
Travailler avec des gens passionnés comme ça de leur domaine, là, j'avais sincèrement rarement vu ça de par mes amis.
C'est vrai.
Je suis rentrée dans le département marketing. Puis je disais quand je suis arrivée chez CDL, mais chez CDL, les gens font pas de la sériculture de 8 à 5. Là. Ils en font toute la journée. Là. Puis c'est vraiment là. Où est-ce que oui, j'avais mon petit bagage, oui, j'avais de la famille qui était là-dedans. Mais par la suite.
C'est au sein de l'entreprise que ça s'est développé.
Que ça s'est développé, puis que bien sûr, on a acheté notre érablière aussi et tout ça. Là. Mais tu sais, c'est vraiment au sein de l'entreprise, puis c'est vraiment au sein des gens aussi de par leur passion. T'sais. On est autour d'une table, puis ça parle de la sériculture, là, tu sais, ça s'enflamme,
on va se dire. Moi, je connais un des cofondateurs, qui est Jean-Marie Chabot, ton grand-papa.
Oui.
C'est sûr que c'est une personne exceptionnelle. Tu sais, oui, il y a une passion pour les sucres qui est quand même débordante. Puis, tu sais, j'avais des entretiens avec certains de ses fils qui me disaient on s'est dit qu'avec le temps, tu sais, il allait se calmer un peu, mais non.
C'est toujours en pire.
Ben, moi, juste, j'ai eu la chance de parler avec lui du potentiel de circuit de notre région aussi. Lui, il passait souvent en hydravion quand il était plus jeune pour aller à son camp dans le coin de la Tuque. Puis il me disait, mais voyons donc, pourquoi vous n'entendiez pas, c'est plein d'érables, j'en pleurais quasiment. Puis il m'a dit, on va le faire ensemble, on va acheter un. T'sais, là, ça marque son épaule d'être calme un peu. Là, embarque-les pas dans un nouveau projet. Mais tu sais, le monsieur va avoir bientôt 80 ans, et lui, il voudrait démarrer des projets. Puis c'est visiblement la sériculture, pas des projets qui concernent autre chose que ça.
Ouais.
Alors,
il n'a même pas besoin de parler, mais ses yeux parlent de par sa passion. Ça transforme naturellement.
Ouais. Ça coule, pas d'eau d'érable. L'émotion est vive, c'est sûr. Alors, toi, tu as eu la chance d'avoir ce grand-papa-là, mais aussi Marthe, qui est quand même une femme entrepreneur aussi, puis Est-ce que c'est vraiment eux qui t'ont insufflé cet intérêt pour les sucres ou c'est dans la région chez vous, tout le monde est tellement passionné que tu as eu ça de tous les côtés ou c'est vraiment...
Bien, je pense que, tu sais, depuis que je suis grande, bien, depuis que je suis jeune, dans le fond, je grandis vraiment dans ça. Tu sais, je me souviens, là, on était jeunes, puis les fins de semaine, pendant le temps des sucres, bien, on les passait à la cabane, en famille, avec mes cousins et cousines. Fait que je pense que c'est vraiment ce côté, là, rassembleur-là de la sériculture qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis là. Tu sais, c'est encore...
Parce que ça rassemble la famille, dans le fond.
C'est familial. Tu sais, on crée des liens avec les employés, avec les clients. Fait que je pense que c'est...
C'est cet aspect-là qui t'accroche là-dedans beaucoup. OK, parfait. Puis maintenant aussi, il y a plein de choses que j'ai envie de discuter avec vous. Mais tu sais, vous êtes deux femmes. Je viens de faire une série d'entrevues avec plein de leaders dans le milieu de la sériculture. Puis vous êtes les deux seules, tu sais. Alors, on en parlait un petit peu avant l'entretien tantôt. Est-ce que c'est parce que les femmes prennent plus leur place? Est-ce qu'il y en a plus? Moi, je te disais, Marie, ce que je vois au journal Sériculture du MAPAC, j'en vois plus. Je vois plus de jeunes aussi. Je vois que ça change. Mais là, toi, tu mettais l'idée, tu dis, ben, peut-être qu'il y en a-tu plus, peut-être qu'ils prennent plus leur place, on le sait pas, mais
je pense que c'est un beau mélange des deux. Ou est-ce que, je pense qu'il était plus effacé avant, ou est-ce qu'il était moins, tu sais, moins de front. Maintenant, je pense que, oui, il y en a peut-être un peu plus, mais je pense qu'ils prennent plus leur place. Maintenant, ben, de plus en plus, on rencontre le couple qui sont ensemble dans, comme copropriétaire. Avant, ils étaient possiblement copropriétaires aussi, mais on sentait un peu moins. Ma perception, peut-être...
C'est un peu l'adage qui disait que, tu sais, derrière chaque grand homme, il y avait une grande femme. Là, on dit, ben là, la femme, elle peut-tu être à côté? Elle n'est pas obligée d'être en arrière.
Ben puis moi, je vois un petit peu plus loin. Je dis, elle peut-tu être en avant?
Des fois, ah oui, à son tour, chacun notre tour. Pourquoi pas? Pourquoi on le voit? Il y a des femmes qui dirigent vraiment des entreprises de sériculture. Chose qu'on voyait peu ou même peut-être pas.
Ouais.
Toi, c'est quoi ton sentiment d'être une jeune femme dans ce milieu-là? Tu le sentiment d'être dans un milieu de monsieur encore un peu? Ou comment tu vois
encore
ça?
Encore un peu, mais je vois ça quand même évoluer. Puis je pense aussi que tranquillement, pas vite, justement, on voit beaucoup plus de femmes, comme on parlait là, dans les journées de ma Pâque. Je parle de plus en plus avec des femmes, mettons, au travail pour les ventes, etc. Fait que c'est fun à voir aussi.
OK. Donc, tu vois des femmes qui sont en démarrage, qui jettent l'équipement, qui ont acheté un héritage ou qui ont convaincu leur chum que
c'est eux qui prennent le contrôle.
OK. Parce qu'ils sont peut-être nés dans une cabane, là. Ils ont attrapé la fièvre des sucres.
Puis, tu sais, sincèrement, puis je vais parler pour nous deux.
Ouais.
On a intégré les deux, l'entreprise. Puis, on n'a pas senti jamais de. Tu sais, ça s'est fait tout naturellement.
Oui, oui. Tu sais, belle ouverture. Puis,
Marca, dernièrement, a intégré les ventes. Ça s'est fait. Marco parle encore plus technique que bien de certains de l'équipe. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment naturel, même si des fois, on crée un peu de discours autour de ça parce que c'est bien de faire parler un peu. Mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment naturel, là. Fait que j'imagine que c'est pas juste chez CDL qui est comme ça, mais dans toute l'industrie à céréales, je pense que c'est de plus en plus naturel. Puis
je t'écoute, puis je ferai un commentaire avec ce que tu disais tantôt. Est-ce que c'est pas parce que la sériculture, avant d'être un milieu d'hommes, même si c'est des hommes qu'on voyait, c'est un milieu de famille? Ça se peut-tu qu'il y a une culture? Parce que moi, je la vois, tu sais, puis j'ai moi-même une petite sucrerie, puis je la maintiens, puis je l'entretiens parce que ça nourrit ma famille.
Effectivement.
On n'est pas juste des gars. Mais c'est sûr que le soir tard, quand ça boit plus longtemps, ça arrive qu'on est juste entre gars encore, quand même.
Exactement.
Quand j'entends un skidoo à minuit qui arrive, c'est rare que c'est une malade. C'est souvent plus un voisin, mais c'est vrai que c'est... Peut-être que c'est ça, peut-être que dans le fond, les sucres, c'est d'abord une histoire de culture familiale. Donc, les femmes prennent plus de place, c'est pas... Il y a rien
de surprenant. Exactement.
Ah, ben j'aime ça comme explication, ça me parle. Bon, c'est mon côté anthropologue, je trouve que c'est une bonne hypothèse. Si on parle maintenant des valeurs que chez vous, tu sais, CDL, en quoi c'est une aventure différente? Parce que, tu sais, tous les manufacturiers font des bons produits. Je pense qu'on peut dire ça, là. Tout le monde est en 2025. Tout le monde se démarque à sa façon. Tu sais, on entend souvent, moi, quand j'entends des gens démarrer en agriculture et demander des conseils aux autres, quelle compagnie je devrais faire affaire, ben, magasine-toi dans un service, une relation. Donc, c'est ça, il faut connaître les valeurs des gens. Des fois, on se reconnaît dans une entreprise. Les valeurs que chez CDL, on pourrait les décrire comment? Tu sais, si on dit que c'est une entreprise familiale, c'est un clan, c'est quoi les valeurs de ce clan-là? Qu'est-ce que tu y vois, toi, déjà, de l'intérieur?
Bien, je pense la proximité. Tu sais, c'est quand même, je pense que c'est une belle valeur d'être proche de nos clients, d'être proche de nos employés, de bâtir des relations aussi de confiance, puis tu sais, d'entraide. Je pense que c'est vraiment au cœur des valeurs de CDL. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
En fait, qu'est-ce que je dis, c'est que les valeurs, là, on les voit de par l'intérieur. Fait que c'est de la façon qu'à l'intérieur, comment qu'on se traite. chez CDL pour avoir été avant ailleurs puis avoir fait certaines... On se traite avec un profond respect. On arrive à... Puis un profond entraide. Puis je parle de mon histoire personnelle, c'est que je suis arrivée chez CDL et j'ai senti profondément que j'avais le droit de prendre des risques. J'avais le droit de me tromper dans un but d'apprendre. Puis là, je parle vraiment de mon expérience personnelle. Puis tu sais, c'est ça qui transcende de la façon qu'on se traite. On a le droit d'émettre une opinion, peut-être de se tromper, de réessayer quelque chose. Mais ça, c'est merveilleux de grandir comme employé à l'intérieur d'une... Puis après ça, bien, comment qu'on se traite? Bien, on continue comme ça, puis on élargit ça à nos cercles de clients, notre proximité, la façon, tu sais, puis... Fait que c'est pour ça que je dis, on part de l'intérieur, puis on agrandit ce cercle-là.
Moi, j'entends qu'il y a de l'indulgence. C'est parce que c'est dur. Je sais que vous êtes très impliqué dans l'innovation, vous développez des nouveaux produits. Ouais. C'est dur de développer puis de repousser les limites en se trompant jamais ou en faisant jamais d'erreur. Si tu ne fais pas d'erreur, c'est parce que tu ne fais pas de projet. Ouais, on est d'accord avec ça? Moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est que c'est une culture d'indulgence. Ouais. Il y a de l'indulgence, puis bien, on le sait que pour être capable d'avancer...
D'indulgence et de confiance. C'est que... Puis tu sais, ça, je pense que ça part... fondamentalement de M. Jean-Marie, parce que M. Jean-Marie fait confiance aux gens.
Oui, dégage ça, oui.
Oui, d'emblée, là, essaie, puis après ça, lorsque tu vas lever la main parce que tu as besoin d'aide, je vais être là. Hein? Puis tu sais, je pense que dans ta famille, c'est comme ça, mais c'est ça qu'on répète. Puis tu sais, quand je suis là pour aider ceux qui arrivent, puis tout ça, je pense que c'est notre mission là, comme gestionnaire dans l'entreprise de continuer dans cette vague-là.
Puis si je vous demande de l'intérieur, on l'a dit tantôt, ça bouge beaucoup la cirriculture, ça se développe à vitesse grand V. La demande mondiale, on prévoit qu'elle va doubler dans les 10 prochaines années. C'est quand même pas mal. Il y a peu d'industries qui font ça. On est d'accord, là, c'est exceptionnel ce qui se vit en ce moment. C'est quoi l'avenir pour vous de la cirriculture? On s'en va où avec ça? T'sais, je sais que chez vous, vous vous intéressez aussi à la récolte de d'autres sèves d'érable, avec votre division en Europe. Sont où les pistes d'avenir pour le développement de votre industrie?
Bien, je pense que, tu sais, l'industrie, mettons, c'est plus devenu vraiment comme des grosses entreprises. Il y a un potentiel de que ça soit rentable en étant toujours respectueux, mettons, de notre environnement. Fait que je pense que c'est vers là que ça s'en va, tu sais, qu'il y a vraiment des potentiels qui se développent autant...
On transite un peu de la circulture, on va dire, revenu d'appoint, OB, à vraiment une professionnalisation de...
Mais je pense qu'il va avoir, tu sais, il va avoir place à toutes ces
des niveaux d'implication là dans la culture. Parce qu'il y aura toujours de la place pour des gens comme nous, là, on fait quelques entailles pour le plaisir.
Je pense que pour arriver à répondre à la demande, on a deux choses. C'est qu'il faut que ça soit rentable et viable pour le producteur, mais il faut aussi intéresser la prochaine génération à le faire. Pour intéresser la prochaine génération à le faire, on n'est pas en dehors de toute autre industrie. Là. Il faut se moderniser, il faut s'industrialiser, il faut s'automatiser, etc. Fait que je pense que d'avoir les ailleurs et fermer les yeux sur ce qui se passe dans les autres industries, c'est là que ça tue notre propre industrie. Donc, il y a vraiment le volet d'intéresser la prochaine génération, de valoriser le métier d'acériculture, d'acériculteur et de continuer là-dedans. Puis répondre à la demande, bien, pour qu'on ait qui s'intéresse à ça, il faut que ça soit viable, il faut que ça soit,
il y a des nostalgiques, moi, j'ai un bon ami qui est mon mentor, je le vois un peu, il dit, ouais, il faudrait pas que ça devienne comme dans le lait, tu sais, on fait juste ramasser l'eau, on concentre, puis le truc passe ramasser le concentré, juste des grands centres de bouillage. Non, c'est sûr que ça serait fun que ça ne devienne pas juste ça. Mais il faut que ce soit ça, entre autres choses, si on veut répondre à cette demande mondiale-là.
C'est ça.
C'est pas les gars avec des femmes avec 3000 entailles qui vont répondre à une demande mondiale croissante.
Je pense que c'est un bel équilibre. Ça prend un équilibre. Puis il faut aller aussi à la vitesse où est-ce que les gens veulent aller, où est-ce qu'ils sont prêts à accepter. Mais assurément, si on veut répondre à la demande, si on veut que justement le sirop, l'érable soit reconnu partout dans le monde, bien, il faut qu'ils connaissent ça. Fait qu'il faut en produire.
Est-ce que c'est dans cette optique-là que vous faites? Parce que chez vous, quelqu'un qui a 50 entailles, il va trouver l'équipement chez CDL. Ouais. Quelqu'un qui a 260 000 entailles aussi, j'en connais un, Monsieur Patry. Alors, est-ce que c'est parce que vous vous dites « petit acériculteur deviendra grand » Pourquoi vous avez une gamme aussi étendue? C'est pas dans tous les milieux que les compagnies font du hobby jusqu'au top, à l'industriel, on va le dire. C'est une industrie. T'sais, des fois, les gens se spécialisent. Nous autres, on s'intéresse au hobby. Nous autres, on s'intéresse au commercial intermédiaire. Vous, vous faites toute la gamme. C'est-tu la force des choses qui vous a amené comme ça ou c'est une vision de...
C'est vraiment... nous, on s'intéresse pas à un segment de marché, on s'intéresse à la sériculture. Puis la sériculture, on a la vision de desservir tous les sériculteurs en Amérique du Nord. Donc, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, c'est vraiment...
Il y a autant d'importance
pour nous. Puis il y a autant d'énergie mise au développement de produits aussi. Ou est-ce que, tu sais, on veut servir les plus gros comme les plus petits avec différents. Puis on veut innover aussi pour les plus petits parce qu'eux autres aussi, ils veulent un petit peu plus que ça soit facile, un petit peu plus augmenter leur qualité de vie autour de la sériculture. Donc, ça va de soi qu'il faut servir tous les segments de marché.
Tu parlais de l'Amérique du Nord, Maryse. Oui. Moi, je monitore ça, puis ça m'intéresse comme phénomène culturel. Tu sais, moi, je suis anthropologue d'abord. Oui. Puis ça m'intéresse beaucoup, c'est cette tribu-là des acéricultrices, des acériculteurs. Là. J'ai découvert que c'est beaucoup plus grand que je pensais. Il y a beaucoup plus d'États aux États-Unis qui en font. Même la côte ouest, là, ils ont un érable à grandes feuilles. Puis on ne sait jamais que sur la côte ouest ou Pacifique, le monde faisait du sirop d'érable. Mais tu sais, c'est beaucoup plus gros qu'on pense. Pourriez-vous me donner un aperçu un peu de ce qui se passe aux États-Unis? Des fois, on a l'impression que c'est peut-être même des descendants de francophones, beaucoup dans le nord-est qui font du sirop. J'aimerais aussi que vous fassiez un petit portrait. C'est qui vos clients aux États-Unis? Puis, qu'est-ce qui change là-bas un peu? Ça se présente comment, la sériculture aux États-Unis?
Est-ce qu'on voit une différence en soi entre la clientèle? Il n'y a pas de...
Un sentiment que c'est similaire?
C'est très similaire.
Il y a la même gamme de sériculteurs,
les plus petits qui font ça. Il y a des modes différentes. Oui. Il y en a qui préfèrent, mais on a ça par région aussi au Québec. Là. Fait que, on sent pas de différence, outre certaines modes, certains accès à la technologie. Pas à la technologie, à l'électricité qui est un peu différente d'ici, okay. Par exemple, l'accès. Mais outre ça,
avez-vous le sentiment qu'il y a une effervescence, un boom? Parce que si on l'a vu, entre autres avec la COVID, il y a beaucoup de familles qui se sont dit, on a notre hobby, ça va devenir faire des sucres un peu au lieu d'aller en voyage. Il y en a beaucoup qui se sont mis à la sériculture. Il y a un petit retour à la terre.
Ouais.
Est-ce qu'il y a le même phénomène là-bas aussi?
Bien, sensiblement. Je pense que ça, les tendances...
Je ne vois pas
de tendance. Okay.
Vous n'avez pas une approche différente pour faire des affaires aux États-Unis qu'au Canada?
Non, le même modèle. Okay. Vraiment, tout ce qui est corporatif s'applique aussi, tant en Ontario, Nouveau-Brunswick.
Ça fait que ça transcende un peu les cultures locales. Oui. Les gens, tout à coup, ce sont des acériculteurs avant d'être des Ontariens
Vraiment, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment le choix de produits qui préfèrent certains produits à d'autres qu'on offre dans notre gamme au complet. Il y a des préférences.
Une question d'habitude.
C'est ça,
exactement.
Une question d'habitude. Oui. OK. Puis, si on parle un peu de ce que vous aimeriez voir se développer, parce que, tu sais, on voit où ça s'en va, l'industrie en général, mais, tu sais, on est tous porteurs, porteuses d'ambitions individuelles. Oui. Toi aussi, tu es d'une autre génération. Tu sais, si je vous donne une baguette magique puis je dis la sériculture, ça pourrait aller vers là. Puis CDL pourrait développer des choses dans cet esprit-là. Est-ce qu'il y a des rêves que vous cultivez, que vous aimeriez me partager un peu? Des visions d'avenir ou des projets? Moi, si je pouvais contribuer d'amener la sériculture à tel endroit ou à tel genre de pratique. Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, dans ma région, là, il n'y en avait à peu près pas. Là. Je vous l'ai dit tantôt.
Oui.
En 5 ans, on a doublé. Je m'implique. On a fait une foire. Regarde, on fait le podcast à partir de ma région. Mais je veux la faire connaître. Je le vois.
Ouais.
Chez nous, il n'y en avait pas. J'étais le seul à faire le sirop dans mon rang. Là, il y a un gars qui vient d'avoir 8000 l'autre bord du rang. Puis, il y a un centre de bouillage de 50 000 entailles.
Ouais.
Régis est en train de finir d'installer ça. Ils vont bouillir cette année 50 000 entailles.
Ouais.
C'est pas banal. Ouais. Moi, j'ai le sentiment de faire ma part. C'est tout du monde qui ont ri quand je leur ai dit pour faire du sirop.
Ouais.
Aujourd'hui, ils sont en business.
Je les ai tannés.
Puis, je suis passé d'un tannant à convaincant.
Ouais.
Bien, vous autres, en avez-vous des petits rêves comme ça? Pour dire, moi, en venant de l'environnement ou peu importe, avec tes valeurs personnelles, une contribution que vous aimeriez faire à cet univers-là?
Bien, moi, je dirais deux. La première, ça serait de continuer à faire connaître la sériculture par tout le monde, puis d'un peu que ces valeurs familiales-là soient partagées, là, même à nos plus jeunes, dans les écoles. Il y en a plusieurs. Je pense que les enfants qui ne savent même pas encore nécessairement c'est quoi la sériculture, fait que peut-être aller un petit peu plus le côté éducation, puis qu'ils disent hey, papa, est-ce qu'on entaille l'érable qu'on a sur notre terrain? Puis l'autre, bien, c'est sûr qu'avec mon background environnemental, apporter un petit peu plus, c'est de trouver des manières de revaloriser des produits qu'actuellement, on ne sait pas trop quoi faire avec, avec. Mais c'est sûr que ça va prendre des recherches un petit peu plus.
C'est un exemple d'un os, tu dis ça, le côté environnemental, là, ça, il va falloir qu'on trouve une solution. Est-ce qu'il y en a un exemple que tu pourrais aborder avec moi? un problème technique là, qu'on a devant nous. On dit ça, il faut trouver une solution parce qu'il y a des nouveaux problèmes. Hein? Les érablières de 3000 hectares, avant, il n'y avait pas les mêmes rejets. Aujourd'hui, ouais. Un centre de voyage de 50 000 hectares, et qu'est-ce qu'il fait avec ces résidus de filtration, c'est des volumes ouais, là, qui commandent des questionnements?
C'est l'encroche. Ouais. J'ai un ami qui, par exemple, qui travaille un peu dans la biométhanisation, puis je sais que ça okay. pourrait potentiellement être utilisé. Intégré. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qui pourraient être intéressantes. Là,
la balisation du filtrat, autre oui, que aussi, pour laver. Tu sais, là, on s'en sert beaucoup en lavage.
Oui.
Mais il y a un grand potentiel. C'est de l'eau qu'on rejette.
C'est de l'eau végétale.
Très peu. Qu'on pourrait utiliser à gré. Puis on en a deux fois plus de volume, là, 4 fois, oui. 5 fois. On a beaucoup plus de filtrat.
Ça pourrait devenir un produit qu'on pourrait commercialiser, peut-être?
Fait que ça, c'est sûr que là, je vole mon punch de qu'est-ce que j'aimerais, mais effectivement, c'est que tout ce qui est jeté pourrait être récupéré. On jette cette belle ressource-là ouais. dans une érablière. Est-ce qu'on serait capable de redonner ces dollars-là à la sériculteur? Puis en redonnant ces dollars-là à la sériculteur, ben moi, mon autre objectif serait atteint. Ça serait de tous ceux qui ont peut-être la difficulté à partir leur projet, là, que c'est le. Tu sais, on parle de financement plus
difficile. Ben oui, c'est le nerf de la guerre.
Est-ce qu'avec ça, ça leur donnerait.
La ouais. Ouais. Un deuxième fait, source de revenus.
Avoir encore plus de gens qui ont la passion, mais qui ont.
Des fois, c'est limite un peu la rentabilité.
Tu sais, on s'entend, c'est comme dans tout, là. Plus que les années passent, plus que les investissements sont majeurs pour avoir accès aux terres, accès à tout ça.
Oui.
Donc, ceux qui veulent partir de rien. Bien, c'est encore plus difficile, mais si on vient valoriser l'ensemble de tout ce qu'on récolte dans une ravière, est-ce que ça pourrait inciter les gens, encore là, dans un défi de rentabilité là, pour le producteur?
Moi, ça résonne ce que tu dis là, Marie, c'est parce que, tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup à des activités de ferme familiale, ouais. de subsistance chez nous, on fait un peu d'élevage, des canards, tu sais, j'ai fréquenté beaucoup de professionnels, des fois, pour apprendre à faire la boucherie, ouais, puis ouais. je me suis fait des bons amis, des mentors,
ouais.
puis un maître boucher de l'époque chez Steinberg, qui aujourd'hui est à la retraite, lui, il a une compagnie de saumon fumé aujourd'hui, mais Jean-Tine, rappelle-toi, en alimentaire, le profit est dans les poubelles.
Yes.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, on jette nos profits tout le temps. Il dit, moi, je fais du saumon fumé, là, j'ai un gars à temps plein, il fait juste gratter mes pots. Gratte les pots, on fait de la mousse, c'est avec ça que je paye mes vacances. Mon profit, c'est le grattage. On gratte les pots, on transforme ça. Il dit, rappelle-toi de ça. Tu veux rationaliser tes finances là, dans une entreprise alimentaire parce que tu génères trop de vidange. Tu jettes trop d'affaires. Puis là, c'est exactement ouais. ça que tu nous dis.
Ouais.
Ce filtre-là, on ne sait plus quoi en faire.
Non, et
puis,
non.
Puis dans le fond, dans le domaine de la distillerie, ils cherchent de l'eau comme ça. Il y a des équipements qui commandent. Tu sais, je pense que les gens qui ont des enjeux d'apnée du sommeil utilisent de l'eau distillée. Fait qu'effectivement, peut-être qu'il y a un travail à faire pour valoriser quelque chose qu'on jette
banalement. Plus d'argent dans cette industrie-là va faire aussi qu'il va atteindre l'autre objectif, c'est de valoriser l'érable à travers le monde. Là, fait qu'on va injecter plus d'argent, va faire que ça va se faire plus correct, sûrement.
En terminant, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous aimeriez partager? T'sais, des fois, on voit un peu les perceptions sur la sériculture. Ah, si on pourrait changer cette mentalité-là, ben, on a un peu l'occasion. Il y a quand même pas mal de monde qui vont vous écouter au podcast. Qu'est-ce que vous auriez peut-être à partager à monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas trop ça? Des fois même, on a des visions négatives. Là. Oh, vous abusez des arbres, vous percez des arbres. Là. On protège surtout la biodiversité. Là. On sait aujourd'hui, avec tout le débat sur les terres publiques, vous avez vu la mobilisation qu'il y a sur la rive sud là, depuis quelques jours. On conserve l'écosystème, là, on ne le coupe pas à blanc. Là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des messages comme ça ou des valeurs que vous trouveriez intéressantes à partager? Peut-être.
Bien, je pense que c'est de s'informer. Tous ceux et celles qui pensent qu'ils pourraient aimer la sériculture ou le domaine ou l'industrie, qui pensent à venir nous voir pour s'informer à quel point on est des gens de cœur, on est des gens passionnés, assurément.
On est là pour les aider aussi à commencer, puis pas de se lancer, mettons, dans l'inconnu. Là, on peut bien les accompagner là-dedans, je pense.
Est-ce que ce serait une belle suggestion, si je me permettais d'inviter les gens qui sont curieux, curieuses, qui disent bon, la sériculture, ça, pourquoi pas? De se déplacer puis d'aller une porte ouverte que vous faites à la fin de mai. Parce que moi, je vais vous le dire franchement, là, c'est un événement clé dans ma vie de me déplacer. J'en ai fait plein. Mais les portes ouvertes que vous faites chez CDL, c'est quand même quelque chose. Tu sais, je veux dire, vous compétitionnez quasiment à Beauce Carnaval. C'est une grosse affaire. C'est gros. Puis, tu sais, moi, à l'époque, je construisais une cabane à sucre un peu dans le but de faire un projet pour mon papa qui, lui, c'est ça, il y a des limitations. Puis, c'était un gars de projet, mais là, il en fait moins. Puis, j'ai dit, on va faire une cabane à sucre pour ton 70e. Mais pendant 5 ans, on a visité plein de places. Puis ça nous faisait un prétexte pour se voir. Mais la journée qu'on est débarqué là, T'sais, on rentre là, on se fait visser une calotte sur la tête, un hot dog dans chaque main. T'sais, tu vas acheter une auto, puis c'est à peine s'il t'offre un café. Dis, ben, on est donc bien traités comme des rois. Puis moi, j'avais été fessé sérieusement par l'envergure. T'sais, il y avait, je sais pas s'il y a encore ça, mais il y avait un évaporateur à cette époque-là. Il y avait un corroyeur qui mettait du bois dans une chargeuse qui rentrait par l'arrière du feu. Le gars, il était quasiment dans une nacelle pour rentrer. Il rentrait une corde de bois d'une shot, ben, le bois pognait en feu avant de rentrer. Je dis, mais c'est tombé malade, tombé gros, tombé hot. Mais tu sais, en faisant l'invitation, c'est quelque chose qui vous plaît, ça, parce que je ne veux pas vous envoyer du monde qui vont vous déranger, mais tu dis, peut-être que je pourrais investir là-dedans. Ça vaut-tu la peine d'aller aux portes ouvertes?
Ça vaut plus la peine. C'est un événement, là, sincèrement, pour, comme j'ai expliqué au début, j'ai commencé au marketing. C'est un de mes premiers projets que j'ai commencé chez CDR. Mais c'est le projet de l'entreprise au complet. C'est toute l'entreprise, tous les secteurs.
Travail d'équipe.
C'est une fête, hein? C'est une fête.
T'sais, on se le dit entre nous, on veut être le plus gros événement céréricole au monde parce qu'on veut redonner, on veut faire connaître, on veut faire voir, on veut, tu sais, tout le monde y travaille, tout le monde chez CDL, peu importe son poste, travaille à faire que cet événement-là un succès. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est un succès. C'est pas l'événement de vente ou l'événement de...
C'est un bel événement familial puis d'échange autant entre... C'est entre clients, que tu sais, entre nous, l'équipe, on travaille d'équipe.
Si vous avez des musiciens sur place, moi, je vois une petite famille là, qui dit « Ouais, mais... » Tu sais, puis tu essaies de convaincre ta blonde ou ton chum d'aller là, mais il y en a pour tous les goûts, là. Ouais. T'as un enfant qui trippe techno, il va être comblé, là. Il va avoir vu les plus belles machines qu'il a vues dans sa semaine. Il y en a pour tout le monde, hein. Vous avez des ateliers, il y avait des ateliers pratiques pour transformer des produits. Ouais. Le centre à serre qui présente aussi...
la dégustation.
Je ne veux pas vous envoyer juste des flâneux, mais tu sais, c'est une belle place pour aller flamber une journée du bon gré. Hein?
Oui,
Puis qui sait peut-être s'intéresser puis s'impliquer en
assistance. Exactement, se lancer dans le prochain projet à Céricole.
Bien, merci beaucoup, Maryse. Merci, Marika.
Merci.
Je suis content de t'avoir reçu.
Merci.
J'espère que vous allez revenir dans notre région. Puis peut-être parce que vous allez servir des nouveaux clients, mais aussi peut-être pour découvrir notre région, aussi venir voir si notre sirop a un goût particulier.
Peut-être.
Merci beaucoup.
Merci.